RT Cool, la radio
à school.
At school. School.
T'es Mohamed.
Et Aloïse pour la blague.
Toto et sa mère vont au parc pour faire du vélo.
Toto dit, regarde maman, on sent les mains.
Sa mère lui répond, c'est bien mon Toto, mais fais attention.
Regarde maman, sens les pieds.
La mère de Toto s'inquiète, fais attention.
Toto revient avec son vélo tout cassé.
Regarde maman, sens les dents.
Salut, c'était Mohamed.
Et Aloïse
pour la blague de la semaine.
Mandelieu-la-Napoul, Istanbul,
Risoul, Frioul, Liverpool,
Banjul, Aknoul, La Bourboule,
Toul, Blackpool,
Séoul. Des endroits, y'en a une foule.
Sur RT Cool.
Salut, c'est Lucas da Silva.
Et Eva pour le pays de la semaine.
Le Panama, ou en forme longue, la République du Panama est un pays de 75 420 km² situé à l'extrémité sud de l'Amérique centrale.
Il est limitrophe du Costa Rica et de la Colombie, dont il faisait autrefois partie.
Le pays, entouré par la mer, les Caraïbes et l'océan Pacifique, était peuplé de 3 657 000 habitants en 2015.
Christophe Colomb touche les côtes panaméennes pendant son quatrième voyage, au cours duquel il longe les côtes du Honduras jusqu'au Panama.
Le 25 février 1503, Colomb fonde l'un des premiers établissements espagnols en territoire continental, Santa Maria de Belén, laissant la charge de ce dernier à son frère Bartolomé, tandis qu'il repart pour l'Espagne demander du renfort pour poursuivre la colonisation. Les envahisseurs espagnols entrent par la suite en conflit avec les Indiens et à la suite de plusieurs attaques victorieuses des Indiens, Santa Maria de Belén est abandonnée par ses habitants qui s'embarquent pour l'Espagne.
Le Panama, par sa situation dans l'isthme reliant l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, occupe une situation stratégique. Le canal de Panama, autrefois américain, est aujourd'hui une source majeure de financement pour l'État panaméen. Nos sources sont Wikipédia et un atlas de l'Amérique centrale.
Salut!
Hello, dear listeners of RT Cool. We are here for the good idea.
Mais Mathieu, on n'était pas censé faire l'intro en français. C'est pas grave, on reprend.
Salut la compagnie,
c'est Mathieu
et Julie sur RT Cool et on est là pour la bonne idée.
La bonne idée de cette semaine est...
Comment faire pour que votre braguette de pantalon reste remontée?
Pour commencer, prendre un anneau de porte-clé, de préférence petit.
Ensuite, l'attacher à sa braguette.
Et quand vous fermez votre braguette,
faites passer l'anneau autour du bouton de votre pantalon.
Enfin, fermez votre pantalon normalement.
L'anneau n'apparaît pas.
Et il tiendra votre braguette pour éviter qu'elle souffle pendant la journée. Bye bye! It was Matthew and Julie on RT Cool.
Mais Matthew, c'était en français qu'il fallait dire au revoir.
Salut Inès, dis, on fait quoi comme perso histo?
Cette semaine, on fait Olivier Gentil. Réputé pour ses mauvaises notes, il est un ambassadeur de la radio à l'école primaire Jean de la Fontaine depuis 9 ans.
Inès, on est là pour Léon Blum.
Ah bon? Je croyais qu'il fallait faire un personnage célèbre.
Bon, bref, un peu de sérieux. Inès, concentre-toi.
D'accord.
Léon Blum est né le 9 avril 1872 et mort le 30 mars 1950 à l'âge de 77 ans.
En 1914, il est nommé chef de cabinet de Marcel Samba, ministre des Travaux publics.
En 1919, il est élu député de la Seine. Il sera secrétaire puis président du groupe parlementaire socialiste à l'Assemblée. 1920, congrès de Tours. La majorité des adhérents socialistes sont pour l'adhésion à l'Internationale communiste. Léon Blum ainsi que quelques autres s'y opposent. La scission est inévitable. Le Parti communiste est créé et est majoritaire.
1924, victoire du cartel des gauches. Léon Blum soutient Édouard Herriot, radical de gauche et nouveau président du Conseil. 1929, il est élu député de Narbonne en 1929, réélu en 1932 et 1936.
En 1934, c'est la création du Front populaire, alliance des différents partis de gauche socialistes et du Parti communiste. 3 mai 1936, la victoire du Front populaire aux élections législatives.
5 juin 1936. Léon Blum est nommé président du Conseil. Il forme son gouvernement. Les communistes ne font pas partie du gouvernement, mais ils le soutiennent. Pour la première fois, des femmes sont ministres. Elles sont trois.
Le 6 juin 1936, Léon Blum présente son gouvernement à l'Assemblée. L'extrême droite se déchaîne, notamment Xavier Vallat, député de droite, proche de l'Action française, qui l'apostrophe en ces termes. Votre arrivée au pouvoir marque incontestablement une date historique.
Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain va être gouverné par un juif. En 1936, Léon Blum décide de ne pas intervenir dans la guerre civile espagnole.
21 juin 1937, Léon Blum démissionne. Il sera rappelé en mars 1938, mais il n'arrivera pas à former un gouvernement. En juin 1940, Léon Blum fait partie des 80 membres de l'Assemblée qui votent contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.
Le 15 septembre 1940, Léon Blum est arrêté par la police de Vichy sur ordre du maréchal Pétain et sera transféré devant la cour de justice de Riom en qualité de responsable de la défaite. Le procès se passe mal pour l'accusation. Léon Blum assure sa défense avec brio. Le 7 avril 1942, le procès est suspendu et Léon Blum sera condamné à la prison à vie.
D'abord incarcéré à la prison de Bourazol, il sera livré par Pierre Laval en 1943 aux Allemands qui le déporteront à Buchenwald. Il en sortira en 1945 à la libération du camp par les Américains. En 1945, il revient au pouvoir pour un mois comme président du gouvernement provisoire. Puis il laisse sa place à Vincent Auriol, premier président de la 4e République. De 1946 à 1950, il se retire à Jouy-en-Josas, près de Versailles, où il décède le 30 mars 1950. Nos sources sont Wikipédia et jesuismort.com.
Bon, maintenant on peut faire, Olivier Gentil ?
Non !
S'il te plaît.
Bon, Clémentine, coupe, parce que je sens qu'on en a pour toute la journée.
Le moment des sciences.
Salut Anna, il y a de l'orage dans l'air. Tu peux m'expliquer comment se protéger du tonnerre ?
Ok, mais il faut que tu aies un paratonnerre. Le paratonnerre est un dispositif inventé en 1752 par Benjamin Franklin. C'est un principe qui permet d'éviter que la foudre ne tombe sur un bâtiment. Benjamin Franklin a en démontré l'utilité du paratonnerre en faisant l'expérience du cerf-volant envoyé sous un nuage d'orage.
Son collègue physicien russe, George Reichmann, n'a pas eu de chance car il est mort foudroyé en faisant l'expérience dans son laboratoire.
Pour construire une protection contre la foudre, il faut construire une cage de Faraday enveloppant l'édifice à protéger.
Il s'agit d'une cage maillée composée de plusieurs pointes. Ces pointes sont reliées entre par des fils conducteurs eux-mêmes reliés à la terre.
Le premier paratonnerre a été installé sur l'église Saint-Philibert à Dijon en 1776.
Voici quelques règles de sécurité en cas d'orage. Éloignez-vous de toute structure, métallique, pylône, clôture.
Abritez-vous dans un véhicule, une maison ou surtout pas sous un arbre, un groupe d'arbres, grotte, une cabane isolée ou une cabine téléphonique.
Si vous ne pouvez pas vous abriter, étendez au sol un matériau isolant, bâche, rouleau de corde, nœud ciré ou à défaut une toile de tente ou un duvet.
Accroupissez-vous ou cachez-vous en boule sur la surface couverte afin de vous isoler du sol. Salut, c'était Anna
et Bertrand pour le paratonnerre.
Avia on abaisse.
Once upon a time.
Ishe.
Elle a oumevé.
Kanyamakan.
Il était une fois.
La phrase de la semaine.
Salut tout le monde, je suis Nathan et voici Barnabé. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour la grande compétition d'anglais.
Nathan, comment dit-on en anglais ? L'année est presque terminée, c'est le temps du spectacle.
On dit « School year is almost finished, it is showtime ».
Bravo, tu as un point !
Maintenant, à toi. Comment dit-on en anglais ? Dimanche dernier, c'était la finale de Roland-Garros. Novak Djokovic a gagné contre Andy Murray.
On dit « The last Sunday, it was the final of Roland-Garros. Novak Djokovic won against Andy Murray. »
Bravo, nous sommes à égalité.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.
Le coin du musicien.
Salut, c'est Chloé
et Alix qui vous présentent le coin du musicien.
Aujourd'hui, c'est Adèle qui est à l'honneur.
Adèle Laurie Blue Aitkings, dite Adèle, née le 5 mai 1988 dans le quartier de Tottenham à Londres, est une auteure, compositrice, interprète britannique. Elle se définit comme une chanteuse soul qui fait de la pop.
En 2008, elle sort son premier album intitulé 19 qui se vend à plus de 6 millions d'exemplaires. Elle est la première à recevoir le prix Critics' Choice.
En 2011, elle sort son second album intitulé 21 qui se vend à plus de 29 millions d'exemplaires, dont 1,85 million en France.
Un album qui se classe 6e dans le classement des plus grands albums de tous les temps.
De la catégorie Women Who Rock par le Rolling Stone Magazine. Elle remporte 6 Grammy Awards lors de la 54e cérémonie des Grammy.
En 2012, elle interprète la chanson du film Skyfall, grâce auquel elle remporte pour la meilleure chanson originale.
Un Golden Globe et un Oscar.
Nos sources sont Wikipédia
et un dictionnaire.
Bye!
Salut la compagnie,
c'est Capucine
et Emeric pour le moment des sports. Capucine, je pars faire du ski cet hiver, mais je ne sais pas ce que c'est.
Le ski alpin ou le ski de piste est un sport de glisse qui consiste à descendre une pente enneigée à l'aide de skis.
Mais qu'est-ce que c'est un ski ?
Le ski est évidemment l'élément essentiel puisqu'il est l'intermédiaire entre le skieur et la neige et par conséquent permet au skieur de glisser. Le ski s'est extraordinairement complexifié au fil des années pour aboutir aujourd'hui à une forme et à une structure de haute technologie. Le ski est partagé en trois parties. L'avant du ski, ou spatule, l'arrière du ski, ou talon, le milieu du ski, sous les chaussures, ou patin.
Mais Capucine, quelle est son histoire ?
Alors, la découverte des planches en bois de différentes formes et dimensions dans des tourbières de Russie, Finlande, Suède et Norvège semble indiquer que le ski remonte à la préhistoire. Des fragments de ski découverts en Russie, datés au carbone, semblent remonter à 7 ou 8 000 ans avant Jésus-Christ. Il est aujourd'hui admis que le ski fait partie de la vie des peuples du Nord depuis plusieurs millénaires.
La suite, je la connais. D'un simple moyen de transport, le ski devient une activité sportive à la fin du 19e siècle. Les premières compétitions civiles sont organisées dans les années 1840 dans les régions du nord et du centre de la Norvège.
La première épreuve nationale de ski est organisée en 1868 à Christiania, aujourd'hui Oslo, la capitale norvégienne.
Des décennies plus tard, la pratique du ski s'est répandue dans toute l'Europe et aux États-Unis, où, l'hiver, les mineurs organisent des courses pour se distraire. La première épreuve de slalom est organisée en Suisse en 1922.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour ça. À la prochaine, la compagnie.
Non, tu as oublié l'équipement.
Ah oui, c'est vrai. Alors, il faut des skis ou un snowboard, des bottes spéciales, des bâtons, mais c'est pas obligatoire.
Un casque pour la protection, mais pas obligatoire, des lunettes lorsqu'il neige, c'est pratique, et des habits chauds.
Le but du ski alpin est de descendre une piste le plus rapidement possible. On pratique ainsi le slalom géant et la descente. Et le freestyle ! Mais là, c'est pour le style. Bon bah là, je crois qu'on a tout dit. Maintenant, tu sais ce que c'est le ski.
Salut la compagnie, à la prochaine, c'était Emeric.
Et Capucine sur RT Cool.
Bonjour, c'est Rémi et Amalia sur RT Cool pour le son mystère
de cette semaine qui est...
Si vous l'avez trouvé, répondez-nous sur son-mystère.cm2@laposte.net.
Le son de la semaine dernière était le bruit d'une chaise que l'on remonte.
Il n'y a pas de gagnant.
Car nous n'avons eu aucune réponse depuis le 14 mai.
Nous espérons que vous allez cette fois... nous envoyez plus de messages.
À la semaine prochaine sur la radio toujours cool.
RT Cool.
La radio.
School.